Info Club Sandwich. Salut tout le monde, nous sommes le lundi 23 mars 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative préférée. Je suis Sonia et je vais animer l'émission d'aujourd'hui. Pour l'interview du jour, Mustapha, qui fait partie d'un de nos ateliers, a reçu l'AESP, l'Association des étudiants en sciences politiques. Ensuite, je vous présenterai l'agenda culturel. Et cette semaine, c'est les Safra numériques. Donc, c'est un festival des arts numériques et nouvelles technologies. Jusqu'à la fin de l'événement, on recevra des artistes à la fin de chaque ICS. Côté musique, on écoute Zaza Vav de The Reverie et You Make Me Feel Like Dancing de Léo Sayer. On commence tout de suite l'émission avec l'interview de Mustapha.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Info Club Sandwich. C'est Mustapha qui est avec vous aujourd'hui et j'accueille sur cette antenne l'Association des étudiants en sciences politiques. Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors du coup, moi je m'appelle Elisa, je suis en deuxième année de sciences politiques et présidente donc de l'AESP pour cette année 2025-2026.
Et moi du coup, je suis Ronan, je suis aussi en L2 de Sciences Po et je suis le vice-président de l'AESP. Voilà.
Alors bienvenue encore une fois à vous sur cette antenne, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir afin de parler de votre association, l'Association des étudiants en sciences politiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, l'Association des étudiants en sciences politiques? Depuis quand est-ce que l'association existe et surtout, quelle est sa principale raison d'être?
L'AESP, donc, déjà, elle existe depuis 2005. Ce n'est pas une jeune association, ça fait déjà un moment qu'elle existe. Ça fait, par contre, je vais dire 4-5 ans qu'elle est vraiment implantée et active. Elle a pour vocation donc de prendre en compte surtout les étudiants en sciences politiques. Sa principale raison d'être, elle est simple, c'est que les étudiants ils profitent au maximum de leur vie universitaire, de leur vie étudiante. Au-delà des cours, c'est quand même important de voir plein de choses, de s'ouvrir au monde. Et l'AESP, on est là pour ça. Voilà. Je ne sais pas si Ronan, tu as quelque chose à rajouter.
Non, mais on est là pour représenter les sciences politiques sur Amiens, pour aussi en faire de la publicité quand on est en salon, mais on en parle après des salons d'étudiants, etc.
Et c'est bien de terminer par là, parce que ma prochaine question, elle va aller dans ce sens. Vous avez parlé des étudiants en sciences politiques, et vu le nom, bien évidemment, nous devinons que vous travaillez avec les étudiants en sciences politiques, mais est-ce que quand même c'est possible que l'on retrouve des étudiants qui ne sont pas en sciences politiques, qui ne suivent pas cette même filière que vous au sein de l'association?
Bien sûr, parce que nous, du coup, les étudiants en sciences politiques, notre pôle, c'est le pôle cathédral, et on est avec les étudiants principalement en droit, on a aussi des éco-gestions, etc. Mais on est beaucoup avec les gens en droit parce qu'on a beaucoup de cours en commun, surtout en première année, et du coup, on a aussi beaucoup d'adhérents et de personnes de notre association qui sont en droit. Au bureau, pour le premier semestre, on a Thomas qui est étudiant en droit et qui est au bureau de l'AESP, et c'est pas du tout incompatible, au contraire, et tous nos événements sont évidemment ouverts à tout le monde, même si vous n'êtes pas forcément en Sciences Po, en droit ou dans notre UFR, c'est vraiment tout le monde est accepté et on vous accueille avec plaisir. Et non, vraiment, les gens en droit sont souvent là aussi et c'est important pour nous aussi de les représenter parce que on est en UFR de droit et sciences politiques, on a les deux composantes dans notre UFR et donc c'est vraiment important pour nous de vraiment avoir les deux. Et on n'est pas juste les Sciences Po, on est aussi là pour les droits, on les représente et on les aide.
Lisa, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, mais non, de toute façon, c'est très bien expliqué. Après, voilà, donc c'est quand même pas mal des fois de trouver dans ces événements toujours les droits, les Sciences Po mélangés, les éco-gestions aussi. Selon les associations, on ne propose pas toujours les mêmes activités. Donc, en fait, tout le monde peut trouver son bonheur, que peu importe la filière, en fait, selon les associations, on est quand même tous assez actifs pour présenter tout le monde et rassembler tout le monde. Donc, voilà.
C'est la grande famille du pôle cathédral.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Donc, vous faites plusieurs activités en tant qu'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces activités que vous menez?
Au niveau des activités, déjà, on a un panel d'activités qui est très large et qui s'étend toujours de plus en plus selon les années, selon les personnes qui arrivent au bureau, selon les adhérents. Voilà, parce qu'on essaye d'être... on est quand même assez nombreux maintenant dans l'asso. On est une bonne quarantaine. Et chacun peut proposer ses idées, donc c'est pour ça que toujours ça évolue. Si on parle en termes de pôle, parce que nous on est organisé du coup en pôle, on a un premier pôle qui est qui est politique et culturel. Donc là on a tout ce qui est conférences, que ce soit avec des professionnels ou avec des politiques. Voilà. Et on organise aussi des concours oratoires, ça. Donc, ça permet aux étudiants de s'exercer aussi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on monte aussi une émission de radio. Donc, c'est un nouveau projet, par exemple, qui n'a jamais été fait. Donc, voilà, on se renouvelle toujours. On a aussi un pôle projet où on fait tout ce qui est voyage, tout ce qui est sortie culturelle. On essaye de permettre aux étudiants à moindre prix d'accéder à des institutions telles que le Sénat ou l'Assemblée nationale. On a fait le Parlement européen aussi pour la première fois cette année. On a un pôle événementiel, donc forcément on organise des soirées. Mais au-delà de faire la fête, on fait toujours en sorte que ce soit au plus, comment dire, que ce soit le plus sécurisé pour les étudiants. Voilà, on fait beaucoup de prévention. On a toujours des trust people qui vérifient, qui sont là pour aider si besoin. Donc, au-delà de faire la fête, on essaye quand même de faire ça bien. Donc, voilà. Et on a un pôle aussi prévention, environnement, où on fait tout ce qui est de la prévention, que ce soit au niveau du climat, mais au niveau tout ce qui est dépistage. Voilà, on fait pas mal de dons à des associations. Souvent, on fait des tables pour donner après les assos à la fin. Je sais que là, pour le cancer du sein, on a réussi à rassembler quand même 400 euros pour une association. Donc, franchement, c'était vraiment bien. On a aussi un pôle sport où on fait tout ce qui est match de gothique, match de foot. On monte aussi un club de course pour permettre aux étudiants de sortir, mais de sortir ensemble. Et toujours pareil, dans cette dynamique d'être encadré et en sécurité. Voilà, pouvoir sortir tous ensemble, surtout la nuit, là, en ce moment, quand il fait nuit à 17h30. Voilà, donc... on essaye de prendre en charge plein de dimensions différentes qu'il peut y avoir dans la vie étudiante et que tout le monde s'y retrouve. Voilà, les personnes qui vont en soirée ne sont pas les mêmes qui vont au Sénat, ou parfois c'est toujours les mêmes groupes. En fait, ça dépend et ça permet à chacun de s'épanouir dans tous les domaines. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Non, c'est très complet ce que tu as dit. On est vraiment une association qui fonctionne avec beaucoup de pôles et beaucoup d'activités tout le temps. Cette semaine, on a trois activités dans la semaine. Donc, c'est vraiment top. Et même pour nous, c'est hyper enrichissant en tant que personne du bureau et de l'association de faire autant de projets, de voir autant de projets se réaliser. C'est vraiment très cool.
Effectivement. Vous avez aussi parlé de voyage culturel. Et bien évidemment aussi que vous voyagez un peu dans les pays européens pour avoir un peu d'expérience internationale. Vous avez été à Berlin en 2025. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences que vous avez vécues au-delà de nos frontières?
Ces projets, c'est vraiment des projets qui nous tiennent à cœur de le faire tous les ans parce que c'est vraiment des moments que les gens attendent. On leur parle toujours des voyages de fin d'année. Et nous, vraiment, on essaie du coup de partir toujours à l'étranger pour que les gens découvrent. Parce que pas tout le monde peut voyager, partir dans un autre pays. C'est, il y a plein de gens à chaque fois qui disent c'est la première fois que je pars à l'étranger, et on essaye de leur faire des voyages à moindre coût, même si ça reste très cher et ça augmente à chaque fois parce que les prix des bus, des trains, des logements, c'est toujours un peu plus cher à chaque fois, et donc on essaie toujours de réduire les coûts, même si c'est toujours compliqué. Mais c'est vraiment pour les étudiants, c'est hyper enrichissant. Ils sont autonomes, ça leur apprend à se gérer dans une autre ville où ils ne parlent pas forcément la langue, donc ils doivent parler en anglais, ou s'ils parlent la langue du pays où on est, ils parlent la langue s'ils le souhaitent, mais ça permet de gérer un peu leur voyage. Et non, franchement, c'est des voyages hyper enrichissants pour tout le monde, même pour nous, ça nous permet de gérer des gros groupes dans d'autres pays, et c'est hyper enrichissant pour tout le monde, et c'est vraiment des voyages qui sont hyper importants pour l'association et pour les étudiants surtout.
Et là, c'est bientôt la rentrée, et nous savons aussi bien que les nouveaux étudiants arrivent avec beaucoup de questions, et ils sont souvent confus. Quelles sont les questions qui reviennent le plus ou peut-être les difficultés auxquelles ils font le plus face en arrivant à la fac? Je sais qu'ils vous consultent, que vous avez vos stands à l'entrée des facs, donc vous êtes mieux placé, je pense, pour répondre à cette question.
Je pense que la première grande question que les gens posent, c'est sur la charge de travail, tout le temps et toujours, sur combien de temps ils vont devoir travailler, etc. Enfin... c'est vraiment en plus la question qui dépend de chacun. T'as des gens qui vont très bien travailler et qui vont pouvoir rendre un dossier en une heure, et d'autres, comme moi, qui vont devoir passer 3-4 heures à faire le même, enfin, le document avec les questions, etc. Donc ça dépend de chacun. Mais voilà, je pense que c'est l'une des questions qui revient le plus.
Si le fonctionnement de la fac, beaucoup nous demandent comment ça marche. Pas forcément, on arrive, on vient du lycée en général, où c'est rare qu'on ait des étudiants qui ont déjà eu une expérience dans les études supérieures. Souvent, ils viennent d'avoir le bac, ils viennent du lycée, et au lycée, on est très encadré. Et là, à la fac, on est un peu truc qui m'est venu, je veux dire, jeter dans la gueule du loup, où vraiment, bah, c'est vrai, il y a assez peu d'accompagnement, même si nous, ici, en sciences politiques, on est quand même une petite licence, donc on a quand même un accompagnement qui est assez bon. Oui. Et les professeurs, ils sont assez proches de nous, dans une moindre mesure. Mais souvent, oui, c'est vraiment sur c'est quoi un cours magistral, c'est quoi un TD. Et du coup, bah, on leur explique. Et après, ils comprennent mieux, et ils comprennent mieux comment la fac fonctionne en général. Et mais oui, c'est vrai que sur le travail, c'est toujours la question. Ou alors sur après, qu'est-ce qu'on peut faire après, les masters. Après, on n'est pas encore là quand vous arrivez en L1, mais c'est vrai que la question, elle arrive très vite.
Ils posent quand même la question dès la L1, déjà, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qui se passe après. Alors que nous, en L2, si on est honnête, on ne sait pas tous encore. Hein, on ne sait pas. Oui, après, il y a aussi cette question d'intégration. C'est plus facile chez nous que chez les droits, par exemple. Parce qu'ils sont 800 et nous, on est 125 au début, donc c'est moins compliqué. Mais c'est l'une des appréhensions aussi du monde. Forcément, ça change beaucoup du lycée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi. On sert à ça aussi, au-delà de répondre aux questions, d'aider au travail. Voilà, on aide aussi à cette intégration. On fait pas mal d'activités de rentrée et tout qui permettent de les mettre à l'aise déjà. Et on a vu des groupes se former pendant cette rentrée de 2025. Donc c'est beau. On sait qu'on ne travaille pas pour rien. Mais voilà, non, après, il y a toujours beaucoup de questions et c'est normal, puisque c'est un environnement quand même très, très, très nouveau par rapport au lycée, ça c'est sûr.
Et en parlant de questions et de lycéens, vous avez été au salon de l'étudiant et de l'élève récemment pour fréquenter un peu les offres de formation de la faculté de sciences politiques et un peu ce qui se fait là-bas. Est-ce que c'était pareil, l'engouement des lycéens? C'était comment cette expérience?
Alors, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants, de lycéens du coup, qui sont intéressés par ce qu'on peut faire. Et souvent, la curiosité, c'est « Mais vous êtes qui ?» Parce qu'on est une licence sciences politiques. Et souvent, les gens ne connaissent pas trop parce qu'ils ont l'image du Sciences Po Paris ou des IEP. Donc souvent, c'est aussi des gens qui sont intéressés par justement ce monde-là et qui découvrent, entre guillemets, qu'il y a des facultés publiques de sciences politiques. Et souvent, c'est intéressant pour nous de montrer que c'est aussi une voie possible et que c'est une voie qui est tout aussi intéressante que ce qu'on peut avoir à Sciences Po Paris ou dans les IEP. Puis c'est des moments qui nous permettent à nous aussi en tant qu'étudiants de un peu transmettre ce qu'on vit, ce qu'on sait, ce qu'on fait. Enfin, ça nous permet aussi vraiment d'expliquer ce qu'on fait. C'est, franchement, moi j'aime beaucoup faire ce genre de salon parce que ça me permet de discuter avec des futurs étudiants, de vraiment de transmettre un peu pourquoi je suis arrivé ici et pourquoi je suis là. Donc vraiment, c'est des bons moments et on voit que le fichage sciences politiques, c'est vachement demandé quand même, parce que même pour toi sur Parcoursup, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et c'est aussi un souci, c'est autre, mais voilà.
Puis même, c'est quand même c'est hyper pertinent ce genre de salon et qu'on soit représenté, parce que comme dire ou non, bah, tout le monde a l'idée de Sciences Po Paris et des IEP, et souvent les parents te posent cette question-là, du coup, est-ce que c'est mieux de faire Sciences Po Paris ou une licence de Sciences Po à Amiens? Ou est-ce que c'est aussi élitiste? Enfin, les parents posent plus cette question-là d'ailleurs que les enfants.
Le prestige.
Oui, c'est ça, le prestige, vraiment. Et donc, c'est bien de montrer que... comme dit Ronan, on existe, mais surtout que c'est quand même très restreint les places qu'il y a à Sciences Po Paris. Et cette licence-là qui existe dans d'autres villes, à Lille, à Avignon, enfin à plein d'endroits de France, c'est bien de montrer aussi que c'est tout aussi bien, surtout, et que c'est pas un vœu un peu de dernier recours, parce que c'est quand même très demandé, mais comme c'est moins élitiste, les étudiants, ils pensent que c'est moins bien et c'est plus un choix de dernier recours. Ouais. Alors que c'est tout aussi intéressant. Déjà, on a des professeurs qui viennent de Paris, de Lille, qui sont tout aussi formés, voire mieux que certains. Donc voilà, c'est important de montrer que ça existe et qu'il y a d'autres voies. Parce que même au niveau de la pression qui existe dans les concours de Sciences Po Paris ou des IEP, tu peux avoir l'impression en fait que c'est la seule chose c'est le seul parcours qui peut te permettre d'aller de faire ce que tu as envie de faire, que ce soit de la diplomatie, que ce soit du journalisme, etc. Alors que loin de là, la licence de sciences politiques à Amiens et autres, elle est tout aussi pertinente et intéressante pour aller plus loin. Donc voilà, ça permet aussi de rassurer, je pense, les étudiants et les parents, pour leur dire que s'ils n'ont pas le concours, en fait, c'est pas grave et loin de là, et que tu peux découvrir plein de choses tout aussi bien en licence.
Je vous remercie vraiment d'être venu nous voir. Donc, pour terminer, je vais vous demander, je vais vous poser cette dernière question pour les étudiants qui nous écoutent. Si vous aviez un conseil ou une information précieuse pour eux, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Moi, je leur dirais de s'ouvrir aux gens et s'ouvrir au monde. Et parce que c'est hyper important. Pour beaucoup, vous allez arriver dans une ville que vous ne connaissez pas. Ça va être impressionnant. Et vous allez sûrement connaître peut-être personne ou très peu de gens. Mais on arrive tous dans le même bateau. Et donc, on est tous dans la même galère. Donc, allez vers les gens. Et vraiment, si vous êtes timide, je comprends que c'est compliqué. Même pour moi, ça a été compliqué quand je suis arrivé. Mais vraiment, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous aux associations, à tout ce que vous pouvez prendre qui vous aide à vous intégrer et qui vous accueille. Prenez-le, c'est vraiment important. Ils sont là pour vous aider, pour vous rendre la vie facile, enfin en tout cas meilleure. Si c'est pas nous, ça peut être n'importe qui d'autre, même si pas forcément vous n'êtes pas forcément en Sciences Po. N'importe quelle association qui vient vous tendre la main pour vous accompagner, il faut la prendre parce que ça va vraiment vous aider et c'est important de d'avoir d'autres choses autour de vos cours, même si les cours, ça reste la priorité. Faut avoir des activités sportives ou d'associatifs ou du syndical si ça vous intéresse. Bref, faites quelque chose autour et ouvrez-vous au monde.
Vraiment, ça, c'est la première chose que je dis aux étudiants dans les salons d'étudiants ou dans les journées portes ouvertes. C'est vraiment, du coup, comme dit Ronan, d'intégrer des assos étudiantes ou des syndicats. Il y a plein d'assos qui existent au-delà, d'ailleurs, de ce que propose, de ce qu'on propose au sein de la fac. Mais ce sera toujours le plus, enfin, la façon déjà la plus simple de rencontrer du monde, mais aussi de se découvrir soi-même, je dirais, et d'apprendre énormément. Je pense qu'avec Ronan, on est arrivé dans l'associatif, dès que, enfin, dans l'ESP en tout cas, dès qu'on est arrivé en L1. Et je pense que c'est le meilleur choix qu'on a fait. Et surtout, si je peux donner un autre conseil aux étudiants qui vont arriver en première année, c'est de pas trop se mettre la pression, parce que c'est difficile pour tout le monde. Je pense que j'ai découvert ma méthode de travail que cette année, et des fois ça prend du temps. Il faut pas trop se mettre la pression, c'est quelque chose qui bouleverse quand même un peu ta vie. Du coup voilà, de pas trop se mettre la pression, de se dire qu'on peut faire des erreurs et que ça nous apprendra toujours.
Merci à vous et merci, un grand merci aussi à nos chers auditeurs et auditrices d'avoir suivi avec nous cette émission avec l'Association des étudiants en sciences politiques d'Amiens. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Somebody on your nose. My
Vous êtes en direct de Radio Campus Amiens et on vient d'écouter Zazavav du groupe The Reverie. C'est le moment de l'agenda culturel. À l'occasion du Printemps des Poètes, deux artistes, Oraza et Mouhsin Kabbaj, vous présenteront leur spectacle « Je serai le feu, femme poète » au Chaudron jeudi 26 mars à 20h30. Oraza sera à la voix parlée et Mouhsin Kabbaj sera à la voix parlée et à la danse. Ce même jeudi 26 mars à 20h30, c'est la quatrième édition des Palmes du Clip. C'est un événement organisé par la Lune des Pirates en partenariat avec le Ciné Saint-Leu. L'idée, c'est de mettre en avant les meilleurs clips des Hauts-de-France en les diffusant sur grand écran. À la fin, le public pourra voter pour son clip préféré. Vous pourrez retrouver des artistes comme Bonnie, Jungle Sauce, Nage, Quantum Quantum, Somsook. C'est gratuit et sur réservation. Ce week-end, donc vendredi 26 mars et samedi 28 mars, Catalyse Amiens organise un grand événement au Quai de l'Innovation autour de la mode circulaire à Amiens. Petits et grands pourront découvrir le monde de la mode sous un autre angle. Le vendredi 27 mars de 10h à 18h est dédié aux professionnels avec table ronde, atelier de codev et forum, porteurs de projets et personnes en reconversion avec la rencontre des acteurs du milieu du textile circulaire. Plusieurs intervenantes venues de toute la France, entrepreneurs, créatrices et actrices engagées de l'économie textile circulaire, partageront leurs expériences et leurs analyses. Le samedi 28 mars de 10h à 18h, c'est pour le grand public, avec des ateliers, des animations et un défilé. Lors de cet événement, vous pourrez apprendre à réparer, transformer vos vêtements, participer à la fresque du textile, personnaliser vos vêtements avec une brodeuse électronique, coudre une pochette upcyclée, apprendre à transformer une vieille chemise en jupe et plein d'autres animations. Dans le programme, vous pourrez retrouver des dizaines d'animations pour les grands et les petits, pour les enfants dès 6 ans, des ateliers, des stands, des jeux et un défilé de création upcyclée et de seconde main. C'est totalement gratuit, l'entrée est libre, sur inscription pour les ateliers, et vous pourrez trouver toutes les informations sur le site Catalyse Amiens, donc K-A-T-A-L-Y-Z-E. Et ce n'est pas encore la fin de l'émission. Une personne m'a rejoint sur le tableau, Cécile Mella, bonjour à vous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Donc vous allez participer au Safra numérique, donc c'est un festival des arts numériques et nouvelles technologies qui commence le 24 mars au Safran. Donc vous êtes artiste, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous faites en tant qu'artiste ?
Alors, je suis photographe de formation et j'en suis arrivée à développer une pratique de photographie plastique que j'expose. Et le projet qui est présenté à Amiens cette semaine s'appelle Synaptique. C'est une installation qui est le fruit d'un duo avec Hervé Villechenoux et même d'une troisième personne qui s'appelle Samuel Dufaux, à qui on a demandé de composer une bande sonore. Donc Synaptique, c'est une installation d'une soixantaine d'écrans de télévision récupérés dans différents centres de recyclerie. Des écrans qui ne fonctionnent plus et qui, mis sous tension, laissent entrevoir des stigmates de dalles cassées d'écran rétroéclairées. Et donc, on a construit une sorte de petite forêt d'écrans. Voilà, c'est un décor un peu post-apocalyptique comme ça, qui dans lequel les visiteurs sont invités à déambuler et venir prêter l'oreille et les yeux aux différentes propositions visuelles et sonores qui sont présentées dans cette grande salle des ateliers.
Voilà. C'est la première fois que vous exposez, que vous faites cette installation ?
C'est la troisième fois qu'on la présente. À chaque fois, elle est réfléchie in situ. Donc là, on a eu l'occasion de venir pour un repérage à Amiens. Donc on avait déjà discuté de quelle salle pouvait recevoir cette œuvre. Et les écrans ont été glanés et organisés pour cette fois. Voilà, même si à chaque fois, l'œuvre a quelques similitudes d'une fois à l'autre, elle reste quand même à chaque fois nouvelle.
D'accord, et donc le but, c'est de créer une sorte de forêt de télévision cassée.
Ouais, le but, c'est de créer une sorte de décor post-apocalyptique, une sorte de monde en ruine ou un monde qui renaîtrait de ses ruines, on ne sait pas trop, mais ça s'appelle synaptique, on est quand même sur la logique d'un organisme ou d'un réseau. Vous verrez, il y a plein de câbles qui vont d'un écran à l'autre ou qui jonchent le sol, et donc voilà. C'est une sorte de propositions de ready-made, un peu à la Duchamp, mais avec un versant écologique, puisque l'idée, c'est quand même parler de comment est-ce qu'on essaye de magnifier ces déchets. Et le projet, juste globalement, la genèse de ce projet, c'est que moi, ça faisait longtemps que je regardais comment était créer les images qu'on ingère sur nos écrans au quotidien, parce que en tant que photographe, je négociais l'accès backstage sur des tournages de fiction à travers le monde. Donc je regardais comment est-ce que les publicités étaient faites, comment les séries télé étaient faites, etc. Et donc après, l'idée, ça a été de se dire que souvent, les tournages étaient faits dans d'autres pays et on venait utiliser un paysage comme une sorte de canevas vierge dans lequel on venait dérouler une fiction qui n'avait rien à voir avec le lieu de départ. Puis ensuite, cette fiction, elle revenait dans notre pays à nous, était regardée sur nos écrans à nous. Puis quand nos écrans, ils meurent, bah, par contre, ils vont re-remplir, ils font le trajet retour de ce que les images ont fait au départ. Ils vont remplir des grands champs qu'on a tous vus, mais de déchets au Niger ou ailleurs. Et donc l'idée, c'était de dire qu'il fallait garder ces écrans et en faire quelque chose ici, chez nous, à l'endroit même où on consommait les images pour lesquelles ils étaient faits.
Et donc, à travers cette exposition, cette installation, qu'est-ce que vous voulez que le public comprenne ?
Bon, déjà, on a envie de créer, de créer une émotion qui soit directe. Moi, c'est ce que je trouve qui est réussi de cette œuvre, c'est qu'il n'y a pas besoin de discours. Il suffit de rentrer dans la pièce pour capter tout de suite quelle est l'intention. On espère qu'elle est poétique. On espère que les gens sortent de là poétisés de ce moment. Et on espère que les gens regarderont autrement... Voilà, ces supports qu'on utilise tous au quotidien, que ce soit... on n'a encore jamais rien fait comme installation avec des écrans de téléphone. Moi, le mien est cassé, comme à peu près, j'imagine, 50% des gens qui ont des smartphones. Mais voilà, qui regardent différemment les objets qui les entourent au quotidien et surtout qui réfléchissent à leur mode de consommation.
Et ce serait une idée de faire le même type d'exposition avec... d'autres, enfin comme vous dites, avec le téléphone par
absolument.
Exemple.
Absolument, mais il y a plein de déclinaisons possibles à cette installation ou à d'autres installations qui font partie d'un corpus plus large qui s'appelle Son of a Glitch, qui est ce travail en commun avec Hervé Villechenoux et qui se décline sous la forme de plusieurs installations toujours présentées en exposition. Et effectivement, à chaque fois, c'est des supports d'écran différents présentés. Voilà, avec de manière différente à chaque fois. Mais oui, on pourrait absolument réfléchir à faire quelque chose avec des écrans de téléphone.
Très bien. Et il y aurait une prochaine exposition après les Safras ?
Pour l'instant, on ne sait pas trop. On vient d'avoir un enfant qui a un an et qui demande beaucoup de temps. Et cette exposition nous a pris pas mal de temps à concevoir aussi. Et là, moi, je suis plus prise sur le projet d'une tapisserie. Il y a une photo d'écran, d'un détail d'écran qui avait été exposé à cette l'année précédente, qui est en train d'être tissée pour devenir une tapisserie d'un mètre cinquante sur un mètre vingt. Donc, je travaille là-dessus en ce moment et je vais retrouver l'atelier de lissière qui est en charge de ça au Buisson dans les prochaines semaines.
Très bien, enfin, merci beaucoup, on a hâte de voir votre exposition, donc ça sera au Safran, c'est toute la semaine, c'est ça ?
Absolument, jusqu'à samedi.
Très bien.
On vous reçoit avec grand plaisir, il y a plein de super médiateurs sur place et une très belle équipe qu'on remercie chaleureusement.
Et bien on a hâte d'y être. Et voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec You Make Me Feel Like Dancing de Léo Sayer. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.